Bienvenue à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale, avec ce soir, bien évidemment, un nouvel invité devant nos micros. Quand on lui demande si elle a la foi, notre invité répond qu'elle est vaillante. Ne possédant ni ordinateur, ni tablette, ni adresse mail, elle se voit affligée de déficit de modernité, selon l'expression employée par un journaliste. Jacqueline Kellen, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est une présentation un peu réductrice parce que je vais poursuivre. Vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, vous avez suivi des études supérieures de lettres classiques et durant 20 ans, de manière irrégulière, vous avez été productrice d'émissions à France Culture. Dans vos livres, je l'ai dit, une trentaine de livres, et au cours de vos séminaires, vous dévoilez la connaissance spirituelle que transmettent les mythes et vous explorez les richesses de la vie intérieure. Alors, je vais citer quelques-uns de vos ouvrages, je ne vais pas citer la trentaine de livres, si les auditeurs veulent en savoir plus sur Jacqueline Kellen, ils utilisent Internet, aux grandes dames de notre invité. Mais on y reviendra vraisemblablement dans quelques minutes. Alors, quelques titres de vos ouvrages, Marie-Madeleine, un amour infini. Vous avez été fasciné par la figure de Marie-Madeleine, cette mauvaise fille, cette prostituée.
Oui, mon premier livre.
Il y a une trentaine d'années.
Eh oui, 30 ans.
On peut citer Divine Blessure, Les Amitiés Célestes, L'Esprit de Solitude, qui a obtenu en 2001 le prix des libraires Mieux-être et Spiritualité. Tous ces livres mentionnés ayant été édités par Albin Michel. Et puis, on va parler ce soir de L'impatience de l'absolu, sous-titré Face au genre inhumain. Mais il y a un tout dernier qui est sorti au tout début d'avril chez François Bourin, éditeur, et qui a pour titre « Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux ». Vous vous adressez en fait aux catholiques pratiquants,
aux chrétiens, aux chrétiens fidèles et clercs, mais le clergé, je pense, est mis plus à mal que les paroissiens.
Alors avant de commencer notre entretien, je voudrais remercier Francette et Laurent Equet, libraires à Vézelay, qui nous accueillent au premier étage de la librairie L'Âme Enchantée, qui est provisoirement en studio d'enregistrement de Radion sur la colline éternelle. Donc je les salue et je les en remercie. Il est vrai que nous enregistrons cette émission la veille d'un séminaire, d'un stage que vous allez proposer avec Laurent Equet dans le cadre des animations de l'association Convergence. Et le thème de l'atelier est « Est-il sur Terre consolation ?» En tout cas, on va peut-être nous aussi avoir droit à notre consolation grâce à vous, Jacqueline Kellen. Et justement, impatience de l'absolu face au genre inhumain, impatience de l'absolu, c'est une formule que vous avez empruntée à Georges Bernanos. Et finalement, je vais, je crois, d'entrée de jeu, lire la quatrième de couverture qui est éclairante sur le contenu du livre. Je vous cite et je vous lis, Jacqueline Kellen. Ma thèse est sans équivoque, au risque de soulever des protestations indignées. L'humanisme actuel, qui n'a même pas le courage de se dire athée, engendre un genre inhumain dont nous constatons aujourd'hui l'amplitude. Et le monde sensible, auquel une propagande dite laïque veut assigner l'être humain comme seule résidence, devient irréversiblement un monde insensible, froid et cruel. Alors, Jacqueline Kellen, la thèse de impatience de l'absolu consiste à nous faire réfléchir sur une société que vous qualifiez, alors attention, vous parlez de stupide société, vous parlez d'outrecuidance cérébrale, vous parlez des supercheries, des impostures, vous parlez des nourritures empoisonnées que sont les loisirs, le bien-être, les jeux et les achats permanents. Alors là, vous dénoncez le désastre des réseaux virtuels, des images et du bruit à profusion. Jacqueline Kellen, mon Dieu, mais vous devez être bien seule dans notre société si agitée où règne tant de brouhaha.
Je ne suis pas sûre d'être seule à être consciente et lucide. Ce qui est plus difficile, c'est de faire entendre sa voix. C'est pour ça que je vous remercie de m'offrir cette possibilité ce soir. Mais de tout temps, en effet, alors il y a eu des grandes voix qu'on appelle pamphlétaires ou des polémistes. En effet, les Léon Blois, les Charles Péguy, le grand Georges Bernanos, à qui j'ai emprunté cette magnifique expression, impatience de l'absolu, que je fais mienne bien sûr, et ces êtres qui voyaient toujours la grandeur, la noblesse et la liberté de l'être humain, se désespéraient quelque peu devant l'attitude des contemporains. Mais là, il me semble que un degré supérieur a été franchi. On le sait, je ne suis pas la première non plus à le dénoncer, mais ces slogans, ces clichés qui tiennent lieu de non-pensée ou de pensée conforme et qui sont assénés à longueur de journée par les médias qui sont censés faire
servir la soupe,
dicter notre comportement. Et moi, ce qui m'affole, c'est que en effet, et on l'a vu dans l'actualité récente, ce ne sont que des impostures, c'est de la poudre aux yeux, et qui vit ce qui est grave. Il y a toujours eu des slogans publicitaires et autres. Ce qui est grave, c'est l'être humain qui est mis en cause. C'est la conception de l'être humain qui est véhiculée, qui m'inquiète. Parce qu'on ne cesse de parler, en effet, de solidarité, d'humanisme, de laïcité, comme si c'était le bien-être.
Le droit de l'homme.
On guérit de tout, les droits de l'homme, etc. Et on croit que ça va élever ou libérer l'être humain, mais pas du tout. Ce sont des mots menteurs, et c'est ça que j'avais envie de décrypter. C'est parti, cet essai, quelque peu polémique, l'idée est partie, de fait, si j'entendais autour de moi, il y avait toujours des personnes qui disaient « Ah, j'ai un projet tel et tel, ah oui, c'est un projet humaniste, donc c'était le petit label en plus. Oui, alors ça, un tel, il est bien, parce qu'il a des idées humanistes. N'importe quelle réforme politique, quel que soit le bord de la réforme, c'était toujours humaniste. Et moi, à ce moment-là, il y a beaucoup de puces qui sont venues à mes oreilles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça cache, cet humanisme? Et moi qui ai une telle admiration envers les humanistes du Quattrocento, du 14e, 15e, 16e siècle, bon, les Pics de la Mirandole, Marcille Ficin, Laurent le Magnifique, Erasme, Rabelais, enfin tout ce qui constitue aussi notre grande tradition occidentale, et ces humanistes-là avaient une haute idée, en effet, de l'être humain, qu'ils engageaient à étudier, à se perfectionner, à devenir libre, mais aussi à désirer la vie angélique. Mais ces humanistes-là, à qui on doit d'immenses découvertes, et puis toute la redécouverte, surtout de notre patrimoine gréco-latin, eh bien, ces humanistes, jamais ils ont critiqué les clercs, par exemple, le fameux Erasme qui est un petit peu à l'origine de la réforme, mais jamais ils n'ont mis en cause les réalités célestes, la divinité, etc. Or, de nos jours, quand on parle d'humanisme, eh bien, il y a un qualificatif qui manque. Ça veut dire, en fait, c'est l'humanisme athée. Donc, très bien, quelqu'un peut être athée. Moi, je ne suis pas là pour les convaincre ni que Dieu existe, ni qu'il se range du côté du bon parti. Ce n'est pas cela. Mais qu'on joue carte sur table. Donc, les humanistes d'aujourd'hui sont aux antipodes des humanistes du XVIe siècle, de la Renaissance, on va dire, pour faire simple, et ils vendent leur camelot ou leur nourriture, en effet, frelatée, d'une façon flagorneuse. Si on dit « je suis humaniste », ça y est, on se redresse, on est bien, on aime l'humanité, on est dans la vraie vie, enfin, toutes les bêtises qu'on entend.
On est solidaire, on est dans le durable,
on est dans le partage,
citoyen aussi,
partage,
parce que c'est tout un ensemble. On parle du catéchisme, humaniste.
On sauve la planète, donc on est vraiment très très bien. On est humaniste, donc on est pour l'homme. Mais de fait, cet humanisme athée veut dire que l'homme est mis à la place de Dieu, c'est la seule finalité, l'homme, ce pauvre mortel que nous sommes tous. Et toute réflexion allant au-delà des limites terrestres, toute réflexion, tout questionnement essentiel, qu'on appelle questionnement philosophique, qui est à la portée de chacun, à savoir quel est le sens de cette vie, pourquoi le mal ? Est-ce qu'il y a une justice ? Est-ce qu'il y a une vie après ? Est-ce qu'il y a des réalités supérieures ? Est-ce qu'il y a une divinité ? Cette divinité est-elle bonne ? Enfin, tout ce qui fait le questionnement philosophique depuis que la philosophie existe, donc ça fait déjà quelques siècles, eh bien, est éradiqué sous prétexte que, au sommet de tout se trouve l'homme, enfin l'homme mortel,
l'individu,
et à lui tout est dû, et ça tourne autour de lui. Donc c'est ça que j'ai voulu dénoncer en disant, si on dit carrément, oui en effet c'est un programme athée, de même pour le terme laïque ou laïcité, ce n'est pas la distinction par rapport au religieux. Jusque-là, un laïc, vous comme moi, nous sommes des laïcs, autant que je sache. Bon, si je croise un prêtre, un moine, une religieuse, c'est une personne religieuse. Bon, donc un laïc comme moi, par exemple, eh bien, je peux être en effet athée, je peux être chrétien, je peux être musulman, je peux chercher sceptique, etc. Maintenant, quand on est laïc, ça veut dire, et tout, on le sait, on voit par rapport au ministre actuels qui sont tous en train de faire la promotion de la morale laïque et même la spiritualité laïque, là ça me fait doucement rire, eh bien ça veut dire de fait c'est non plus distinct du religieux, c'est anti-religieux et pire, c'est pas tant anticlérical, c'est pour éradiquer, c'est ce que je sens, tout sentiment religieux pour arracher du cœur de l'homme, ce que voulait déjà faire le fameux Big Brother, 1984 et bien derrière nous, c'est arracher de la conscience humaine cette aspiration à une vie supérieure. C'est ça qui m'inquiète. Mais sinon, qu'ils soient athées, qu'ils soient humanistes, s'ils veulent, mais c'est une imposture qui est vendue sous couleur bienfaisante, bienfaitrice et dégoulinante de bons sentiments.
On reviendra sur ces supercheries, ces impostures, ce que vous appelez même, et c'est encore plus grave, entreprise de démolition.
Oui, je le sens.
L'expression est dans impatience de l'absolu face au genre inhumain. Oui. On va marquer un premier temps de pause dans notre émission. Je rappelle que nous sommes ce soir avec Jacqueline Kellen pour évoquer impatience de l'absolu face au genre inhumain, paru aux éditions de la Table Ronde. On va provisoirement s'éclipser pour laisser place à Julos Bocarn et à un de ses titres, Joie de vivre, extrait de son album L'avenir a changé de berceau. Rendez-vous dans une poignée de minutes. Bonne soirée sur...
Champs et vergers, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où, je vais, je suis heureux, c'est fête et joie en ma poitrine, que m'importe droits et doctrines, le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux. Pour la première fois, je vois des vents vermeils briller dans la mer des branchages. Mon âme humaine n'a point d'âge, tout est jeune, tout est nouveau sous le soleil. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent, je me repose et je repars avec mon guide le hasard. Par les sentiers sous bois dont je mâche les feuilles, j'aime mes yeux, mes bras, ma chair, mon torse et mes cheveux amples et blonds. Et je voudrais par mes poumons boire l'espace entier pour en gonfler ma force. Et je voudrais par mes poumons boire l'espace entier pour en gonfler ma force.
À l'instant, Julos Bocarn avec Joie de vivre. Elle est notre invitée jusqu'à 22h. Nous accueillons ce soir devant nos micros Jacqueline Kellen pour Impatience de l'absolu face au genre inhumain que l'on se procurera aux éditions de La Table Ronde. Alors, Jacqueline Kellen, on a bien compris que vous nous mettiez en garde sur ce que vous appelez, je répète cette expression, une entreprise de démolition, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire la notion spirituelle, de l'identité spirituelle de l'homme au profit du corps, du matériel en tout cas, d'un matérialisme athée qui vous dérange parce qu'il est totalement tyrannique.
Oui, c'est cela, et au profit de réalités éphémères. Alors, il est très important, il est précieux, en effet, non seulement de soigner son corps, de vivre durant cette existence de la façon la plus, non pas la plus agréable, mais la moins mauvaise possible, donc de profiter aussi de belles choses de la vie, enfin de savoir les apprécier du moins. Mais cette existence, encore une fois, elle n'est pas durable, puisqu'on est absolument sous l'injonction du durable. Elle est passagère. Et ce qui compte quand même, ce n'est pas tant les réponses, mais c'est le questionnement. Quelle est ma nature d'être humain? Quel est le sens de ma vie? À quoi puis-je prétendre? Quelle est mon aspiration?
Mais ça pose aussi la question, en fait, du bonheur. C'est-à-dire, comment envisager le bonheur? Alors, il y a ceux qui pensent que être heureux, que le bonheur tient à la possibilité d'acquérir un magnifique écran plat dans son salon. Et il y a ceux qui, effectivement, ne veulent pas se contenter de cela et vont chercher à s'élever vers, justement, cet absolu.
Biens immatériels. Mais alors, là aussi, on assiste toujours à une transformation, à un gauchissement des termes. Prenons le bonheur. Bien sûr, je n'ai rien contre le bonheur, si je puis dire. Mais le bonheur que l'on... Enfin, quand je dis propose, que l'on impose à tous les citoyens de nos jours, donc c'est pour tout le monde, c'est uniquement dans le sens, en effet, la flatterie de l'individu, soit dans le paraître, donc il faut passer à la télévision, soit surtout, comme vous l'avez dit, l'acquisition de biens matériels. Et puis, donc, si on n'a pas ça, s'il n'y a pas la notoriété, le pouvoir, les satisfactions sensorielles, les richesses, etc., eh bien, on est frustré. Donc, on crée toute une génération de frustrés ou de mécontents, donc qui vont descendre dans la rue, revendiquer, etc., manifester. Mais le bonheur, c'est une vision extrêmement réductrice du bonheur. Tous les grands philosophes, encore une fois, de l'Antiquité grecque et latine, se sont intéressés à qu'est-ce qu'une vie heureuse, qu'est-ce que le bonheur. Et pour eux, donc ce n'étaient pas des philosophes chrétiens, ce n'étaient pas des théologiens, ce sont des philosophes, donc là c'est 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, ils disent, eh bien, ce sont ces biens immatériels que sont, en effet, la liberté, le silence, l'étude, la contemplation, et puis un des grands points du bonheur aussi, des grandes réalités du bonheur, c'est l'amitié, l'exercice de l'amitié. Donc il y a les relations humaines. Donc qu'est-ce qui est précieux? La question que à chaque fois qu'il est important de se poser, c'est qu'est-ce qui est précieux? Et surtout dans des moments peut-être de difficultés, d'épreuves ou de grande tristesse, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire pour chacun? Et là, ce n'est pas général, ce n'est pas d'avoir 3 voitures ou ce n'est pas de passer à la télévision. Qu'est-ce qui est essentiel, indispensable? Et là, le bonheur n'est pas général, c'est éminemment particulier. Donc ce dévoiement du bonheur actuel nous empêche même de penser qu'il y a des personnes, et il y en a de nos jours, il y en a eu aussi de tout temps, des personnes qui vivaient dans le dénuement, par exemple, et qui ne se disent pas malheureuses. C'est nous qui projetons un bonheur tout fait. Donc là, des personnes qui mènent, donc d'où le droit à, le droit à la santé, le droit à la beauté, le droit au luxe, on entend des choses comme ça, mais c'est affolant. Après, le droit à ne pas mourir, on va demander. Bon, là, on est plutôt dans l'inverse. C'est plutôt, si on est plus utile à la société, on va débarrasser avec l'euthanasie. Mais c'est toute cette... Oui, je dis bien entreprise de démolition parce que nous sommes toujours englués dans des préoccupations uniquement terrestres, et ces préoccupations sont passagères. Et la question demeure, qu'il y ait ou non des réponses, mais qu'est-ce qui ne passe pas ? Sur quoi puis-je m'appuyer qui ne passe pas ? Et ça, c'est toute la réflexion métaphysique. Mais actuellement, quand je dis démolition, c'est parce qu'on veut sabrer, torpiller toute la réflexion métaphysique, qui n'est pas le fait de spécialiste. Il ne s'agit pas d'avoir fait des études pour se poser les questions dont on a parlé. Mais maintenant, cette philosophie actuelle qui se dit, sans rigoler, post-métaphysique, donc d'un coup d'un seul, elle l'enterre, c'est comme si Socrate n'avait pas existé, et Platon, oui, etc. C'est quand même insensé. Donc ça veut dire, restreignez surtout le cadre de vos préoccupations, ne regardez pas en haut, ne regardez pas sur les côtés, bon, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste le nombril. Hein.
Jacqueline Kellen, dans Impatience de l'absolu face au genre inhumain, il y a un passage très intéressant qui m'a beaucoup interpellé, où un jour vous vous promenez, je crois que dans une grande surface, et vous êtes témoin d'un accident de caddie, c'est-à-dire une dame qui, je crois, dans l'escalator, dans le tapis roulant, a fait basculer le caddie, et elle était écrasée par son caddie. Et vous dites, bien sûr, non seulement c'est toujours un peu triste, j'espère que cette dame n'a pas été blessée, mais vous dites que l'image est parlante.
Ah ben, tout à fait. Moi, j'ai assisté, c'était juste à côté de chez moi, et de fait, en effet, il y a un tapis roulant spécial pour caddie, ces caddies qui débordent de victuailles, de choses, etc. Et il y a eu un incident technique qui fait que, alors la dame en question, cette femme n'a pas été elle n'a pas subi trop de désagréments, mais je me disais, c'est extraordinaire, mais le citoyen actuel, en effet, donc le consommateur compulsif à quoi nous sommes réduits, eh bien, il va être écrasé sous son caddie, et il va déborder, enfin, débordant de victuailles.
Une véritable allégorie de la société de consommation.
Exactement, mais on en est là, et quand on voit aussi, ou alors être enseveli sous nos déchets, parce que maintenant, avec le tri, on est enseveli sous les poubelles. Donc, à un moment, la question n'est pas ni de trier, ni de faire durer, ni de faire recycler. La question n'est pas de voir de façon linéaire, c'est de regarder, de prendre du recul et de regarder, considérer ces choses d'un peu haut. C'est ça la question. Hein, le recul philosophique, c'est bon, qu'est-ce que je dis, moi, de cet état-là, de le citoyen, en dehors de consommer, d'acheter, de regarder ses écrans, quand est-ce qu'il vit, quand est-ce qu'il se sent vivant ? C'est ça le bonheur, c'est ça la question.
Impatience de l'absolu, tel est le titre de l'essai de Jacqueline Kellen, qui est l'invitée de l'émission littéraire de Radion. Nous poursuivrons notre conversation après un nouvel intermède musical. Je vous propose d'écouter, Jacqueline, un titre de Benabar. Vous connaissez Benabar, 5 albums à ce jour, vendus tout de même à plus de 3 millions d'exemplaires, et pour lesquels il a obtenu 3 victoires de la musique. Alors, j'ai choisi un titre. Le titre en lui-même va vous faire sourire, c'est « Va des rétro téléphone » et on écoute donc Benabar sur Radio. Une bonne soirée, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité.
Le petit matin qui suit le grand soir, le lendemain de la première nuit, quand le jour a remplacé le noir, les couples s'éloignent dans les lits. Adam et Ève remettent leurs costumes, on s'appelle comme le veut la coutume, des amants qui se quittent, bons amis. Mais je sais que la louve est dans la bergerie et qu'il faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle. Attendre encore quelques jours, il faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle, pas encore, c'est trop court. Dans les mains, j'hésite et je raccroche. Pas pressé de passer pour celui qui s'accroche. Fébrile et collant, ça donne pas vraiment envie. Lointain et distant, je sais pas pourquoi, mais c'est sexy. Même si je ne pense qu'à elle, si je rêve de la revoir, va des rétro-téléphones, elle ne doit pas le savoir. Nos meilleurs techniciens se sont penchés sur la formule. C'est 3 jours au moins le résultat de leur calcul. Faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle. Attendre encore quelques jours, il faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle, pas encore, c'est trop court.
Hier, sur mon épaule, ta tête à l'abandon, des mèches de cheveux collées par la sueur sur ton front, ça me faisait des crampes et des fourmis dans le bras. J'aurais tout supporté pour te garder près de moi. Les amants le soir se déshabillant, s'embrassant, le matin c'est rare qu'ils se rhabillent mutuellement. Comment savoir si j'ai le droit de t'appeler, si tu penses à moi, si je vais pas déranger. Faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle. Attendre encore quelques jours, il faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle, pas encore, c'est trop court. C'est bon, c'est décidé, je t'appelle demain pour t'inviter à une expo genre art contemporain. N'importe quoi, je m'en fous, mais un truc qui fait bien et que je fais jamais, mais ça t'en sait rien. Et si tu le veux, si tu le veux bien, peut-être qu'un de ces jours, un de ces quatre matins, tu m'avoueras un peu gêné que t'osais pas m'appeler. Je me vois rigoler, c'est ridicule, quelle drôle d'idée. Faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle. Attendre encore quelques jours, il faut pas que je l'appelle, pas que je l'appelle, pas encore, c'est trop court. Valérie, trop de téléphone. 3 jours minimum.
Avant de retrouver notre invitée Jacqueline Kellen pour Impatience de l'absolu face au genre inhumain aux éditions de la Table Ronde, nous laissons quelques minutes à notre libraire partenaire Evelyne Levallois pour son traditionnel coup de cœur qu'elle partage avec vous, auditrices et auditeurs. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous. Le coup de cœur cette semaine sera une courte série de bandes dessinées, une série en 4 volumes, qui s'appelle Long John Silver, de Xavier Dorisson et Mathieu Loffray, paru chez Dargo, dont le 4e volume vient de paraître, et c'est le dernier. Cette espèce de suite de L'île au trésor, puisque ça reprend le personnage de Long John Silver qui était dans L'île au trésor, nous raconte ce qu'il advint de ce mystérieux pirate. Tout commence à Bristol, dans le 1er volume. Lady Vivian Hastings pense que son mari est mort au Nouveau Monde en cherchant l'Eldorado, donc l'or, et elle tente de se débrouiller comme elle peut avec les dettes qui s'accumulent, le fait que ce soit une femme au 19e, c'est compliqué, enfin voilà, elle essaye de se débrouiller comme elle peut. Et un jour, elle reçoit une lettre et son beau-frère débarque, lui explique que son mari a trouvé l'or et qu'il faut tout vendre pour aller récupérer l'argent. Et elle décide de s'embarquer pour récupérer une partie du butin et aussi régler quelques comptes avec son mari, parce qu'on comprend qu'il y a quand même une relation qui est compliquée entre ces deux-là. Mais évidemment, comme c'est une femme, elle peut pas s'embarquer seule. Elle est obligée de soudoyer quelqu'un, de se payer les
faveurs et les services en fait d'une équipe, d'un équipage.
Voilà, et elle va embaucher le fameux Long John Silver malgré cette réputation, parce que déjà c'est le seul qu'elle puisse se permettre, et aussi à cause de cette réputation, il faut quand même traverser toute l'Amazonie pour aller chercher cet or. Ça sera pas n'importe lequel, Long John Silver, il a une horrible réputation, mais ce qui est très très frappant dans cette série de bande dessinée, c'est que le personnage principal, même si la série s'appelle Long John Silver, le personnage principal c'est Lady Vivian. C'est cette femme qui va tenter de se rebeller face à l'autorité du mari, face à l'autorité masculine au 19e. Voilà, donc une très belle série pour les hommes et pour les femmes. Voilà.
C'est vrai que la couverture du tome 1 montre un personnage de dos, gabardine, la pluie tombe dessus, et puis à l'arrière, un ciel gris, très sombre, avec des oiseaux. Ces oiseaux sont-ils de bon augure? Donc à découvrir dans cette série donc de bande dessinée, Long John Silver. Combien de tomes? 4, 5
4.
4 tomes, c'est chez Dargo, et donc de Xavier Dorisson et Mathieu Loffray. Voilà, c'était les coups de cœur de la semaine, un petit peu de bulles et un petit peu de bande dessinée. Ça fait du bien, ça rafraîchit pour le printemps à bord de Wagon Livre. Quelles sont cette semaine les meilleures ventes?
Alors, la meilleure vente de la semaine est, à n'en pas douter, le John Irving qui caracole en tête avec À moi seul bien des personnages aux éditions du Seuil. Ensuite, en format poche, Et puis Paulette de Barbara Constantine, qui est vraiment l'auteur féminin qui monte actuellement, Barbara Constantine. Ensuite, un long-seller assez inattendu en librairie, Petite Poussette de Michel Serres aux éditions du Pommier. Ensuite, Immortelle Randonnée,
par tous
les fidèles.
Oui. Voilà. Et les fidèles de Wagon Livre et de Radio, peut-être sont venus se procurer donc ce récit du voyage à Compostelle par l'académicien Jean-Christophe Ruffin. C'est dans une petite maison d'édition du côté de Chamonix.
Voilà, les éditions Guérin. Pour finir, dernière meilleure vente, Chercher la femme d'Alice Fernet aux éditions Actes Sud. Voilà.
Eh bien, merci Evelyne. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de cœur.
À très bientôt, bonsoir.
Au revoir Evelyne. Jacqueline Kellen, juste avant le coup de cœur de notre libraire, nous avons entendu un titre de Benabar, Va des rétro téléphone. Et justement, vous en parlez du téléphone. Vous parlez de ces personnes agrippées à leur téléphone portable et que vous qualifiez comme imbu de supériorité technologique. Alors, je vais lire le paragraphe en question. Mais à qui peuvent-ils bien parler tout au long de la journée? C'est la question que je me pose en voyant tous ces gens rivés à leur téléphone portable dans la rue, dans le métro, au café, dans les boutiques. Auraient-ils donc tant d'amis, tant de relations? Le téléphone mobile développe non pas la relation humaine, mais le bavardage insipide. C'est la mobilisation de soi en permanence, le contraire même de la disponibilité.
Oui, le téléphone mobile, il mobilise, c'est ça. Il empêche d'être ouvert à l'instant, à la présence, d'apprécier ce qui se passe autour de soi, de regarder le paysage, de croiser les passants. Tout ce qui fait l'imprévu de la relation humaine et puis ce qui fait aussi un lien si on entre en relation avec quelqu'un. C'est assez sidérant. Bon, ce que je dis, et tout le monde peut le constater, donc c'est assez banal et il ne s'agit pas de critiquer les moyens technologiques. C'est la façon, encore une fois, dont on devient, mais volontairement ou consciemment, asservi. La question, c'est toujours ça, la servitude volontaire. On peut se passer de ces objets qui sont utiles, mais dans la mesure où ils emprisonnent l'utilisateur, c'est insupportable. La question, c'est toujours à se poser, c'est il y a des liens importants, des liens qui allègent, des liens qui nourrissent, donc c'est la véritable relation, alors relation entre deux êtres humains, avec la nature, avec les livres, avec des œuvres d'art, avec, pourquoi pas, des anges ou la divinité. Donc c'est des relations qui ouvrent, qui enrichissent, qui étonnent, qui émerveillent, qui illuminent, etc. Et puis il y a les liens qui ligotent. Et ça, c'est le boulet du prisonnier. Et je suis étonnée de voir que autant sacrifie à ces machines qui ligotent.
Donc le téléphone, finalement, s'attaque bien au cerveau, au sens même physiologique. On sait qu'il y a des problèmes, des tumeurs. Enfin,
mais bien sûr.
Quand bien même on nous dit que les ondes ne sont pas dangereuses, mais ça, pour l'instant, on n'en parle pas trop parce qu'on sait que ce serait terrible.
Il y a cet aspect-là très grave.
Et finalement, quand on est au téléphone, on encombre la vie des autres avec ces conversations insipides. Donc, on enlève de la disponibilité à ceux que l'on croit aimer, finalement.
Oui, et l'écran, enfin, c'est extraordinaire, quand même, ce terme d'écran, alors qu'il soit très grand ou petit, l'écran fait écran à ce que, alors, Rimbaud appelait la vraie vie, à savoir une vie de l'imagination, de la sensibilité ou la vie spirituelle. C'est une des raisons principales pour lesquelles, quand vous disiez au départ que je n'ai pas d'ordinateur, du moins je m'en suis vite débarrassée, je n'en trouvais pas l'utilité. Pour moi, l'écran fait écran. Je suis incapable même d'écrire une lettre, je ferai Toto, hein, bonjour, je vais bien, il fait beau, enfin je ferai une lettre extrêmement sommaire et fruste, parce que pour moi, un écran lumineux d'ordinateur fait écran à la pensée, à la rêverie, à la sensibilité. Ça, c'est pas être anti-moderne, anti-moderniste, mais l'écran, pour moi, est quelque chose qui stérilise. Donc c'est personnel, hein, parce qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent leurs livres comme ça. Mais pour moi, l'écriture, justement, n'est pas de l'ordre du visuel. C'est ça la réalité profonde, parce que je me suis posé des questions. L'écriture n'est pas d'ordre visuel, c'est de l'ordre vraiment de l'écoute. D'où il me faut un grand silence. Je suis incapable d'écrire en présence de quelqu'un. Mon chat respecte, ça va, le chat, pas plus. Bon, donc c'est vraiment une écoute à la fois intérieure, et c'est comme si, avec des petits filets à papillons invisibles, je captais ou je capturais des idées, des images, des mots, etc. Et donc l'écran, en effet, pour moi, nuit absolument à la création littéraire.
Quand on lit Impatience de l'absolu, avec le sous-titre « Face au genre inhumain », on a un moment un petit peu de découragement en disant Jacqueline Kellen brosse le portrait d'une société et on a l'impression qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. En tout cas, on se dit que sur le plan personnel, à nous d'être vigilants et d'aller peut-être vers cet absolu qui, cette impatience de l'absolu, il faut essayer de l'avoir, de tendre vers la spiritualité, vers l'intellectualité. Bien, il y a un moment de, on est parfois un peu découragé en disant, mais mon Dieu, nous vivons dans une société, oui, avec des nourritures empoisonnées. Ce qui est aussi formidable, ce que j'aime, c'est les petites fléchettes, les petits traits que vous lancez qui sont pleins d'humour, pleins de raillerie, pleins d'ironie. Il y en a une, par exemple, page 115. Vous écrivez, Jacqueline Callen, « Je suis persuadée qu'à la radio, une heure avant la fin du monde, les journalistes parleront encore de football. » Ça vous fait rire. Mais oui. Moi aussi, j'ai trouvé ça.
Mais c'est quand même incroyable. J'écoute pas mal la radio, le soir en particulier, et par exemple, le dimanche, enfin, on a quand même, j'ai un peu de recul d'années, et je me dis, mais le dimanche, il y a, donc, le monde peut s'arrêter, il peut y avoir une troisième guerre mondiale, etc. Non, non, ce qui vient en premier dans les soi-disant informations, et ce qui occupe toute la journée, eh bien, c'est, si ce n'est pas le foot, c'est le rugby, etc., mais avant tout, c'est le football. C'est, là aussi, c'est quand même une sacrée manœuvre d'abrutissement et de rétrécissement. Je ne dis pas que le football est abrutissant, mais de l'immense actualité du monde entier réduite au seul ballon, c'est quand même effrayant. Donc il y a cette, oui, cette volonté de tout, toujours de niveler à des niveaux pas très intéressants. Oui.
On y reviendra, notamment lorsque nous parlerons de ce que vous appelez le siècle thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est dans une société du soin, hein, où l'on dit pas de soucis, etc., oui, etc. Mais par exemple, là encore, phrase choc, tant qu'à mourir, autant mourir libre. C'est le principe de vie de tout être noble. L'adage actuel serait plutôt « autant mourir guéri, autant mourir repu ».
Oui.
Ça vous fait... Vous oui, riez oui, de ce que vous avez écrit et qui est très efficace finalement, parce qu'on se dit que, ben oui, on va mourir, on va mourir entouré de tous ces biens matériels, avec sans doute la crainte.
Oui, oui, il faut un traitement de choc. Je souris parce que moi, ce n'est pas, bien sûr, et vous le comprenez bien, ce n'est pas du tout méchant, méprisant par rapport aux êtres humains. Mais ce qui m'affole et m'accable, c'est ce à quoi on veut, et quand je dis, je vais préciser, ce à quoi on veut réduire l'être humain, justement, qui va être écrasé par son caddie plein de nourriture, qui va mourir mais guéri, avec toutes les thérapies possibles, qui croit qu'il va durer. Mais tous les jours, je vois des livres aussi, le couple durable, tout est durable, etc. Donc je me dis, mais comment peuvent-ils gober autant de niaiseries? Bon, alors quand vous disiez juste avant, la question c'est de tendre vers l'absolu, je ne sais pas s'il y a un salut. C'est surtout, je pense qu'en soi, le salut, c'est d'honorer la conscience humaine et justement de rester, non pas impassible comme les stoïciens, mais de rester vif, vigilant, conscient,
vaillant,
de ne pas être, oui, et de ne pas être dupe, de ne pas être dupe. La merveille, c'est la conscience humaine. Donc, et la fierté, c'est très important, la fierté.
Quelque
de
part, c'est aussi se révolter un peu, être capable de dire non.
Mais c'est ça, c'est être capable de dire non, mais ce n'est pas un citoyen éveillé ou conscient qui va faire va faire machine arrière. Ce n'est pas possible, en effet. Là, on est dans une sorte de machine qui s'emballe. Ce n'est pas cela. Mais le fait, en effet, de dire, moi, je ne mangerai pas de ce pain-là, de cette nourriture empoisonnée. Ça, bien sûr, est d'essayer d'éveiller un petit peu les autres qui sont pris, qui ne sont pas heureux. C'est pour ça que, d'un côté, on leur vend le bonheur, le bien-être, etc. Et comme, dans la réalité, les citoyens se rendent bien compte que, bah, non, ils ne sont pas heureux parce que les prix augmentent sans arrêt, parce que, il y a quand même la maladie, la mort, ça existe, l'abandon, la trahison, la condition humaine, donc, elle demeure. Donc, à ce moment-là, le bonheur qu'on vous propose ne vous convient pas et vous êtes malheureux, attendez, on va vous fournir, et là, on propose les thérapies.
Si vous avez manqué le début de notre rendez-vous culturel, sachez qu'il est possible et vivement recommandé d'écouter cette émission en balado-diffusion. C'est pour ne pas utiliser le terme podcast qu'on m'a reproché très récemment. Ah oui. On peut écouter donc l'émission en balado-diffusion sur le site internet de Radion, hein, vous pouvez noter, Jacqueline Callen, www.radion.fr, rubrique podcast. et vous sélectionnez Wagon Livre. Je rappelle au passage, tout de même, concernant le site internet de Radion, hein, c'est 100 000 internautes par an sur notre site. Si vous voulez réagir, critiquer, proposer ou faire connaître un auteur, ben vous nous écrivez, émission Wagon Livre, Radion, 27 Place Corot, 89 000 Auxerre. Vous pouvez me contacter, car contrairement à Jacqueline Kellen, j'ai une adresse électronique, yannick.petit@radion.fr. Jacqueline Kellen, une nouvelle pause musicale avant de nous retrouver d'ici quelques minutes. Alors, j'ai retenu un chanteur qui nous a quittés en mars 2010 à l'âge de 80 ans. Vous le connaissez bien évidemment, il s'agit de Jean Ferrat. Et nous écoutons un de ses titres, « Dans la jungle ou dans le zoo ». On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Jacqueline Kellen, auteur de l'essai intitulé « Impatience de l'absolu » avec pour sous-titre « Mobilisateur ». Face au genre inhumain, et c'est aux éditions de la Table Ronde.
Ainsi donc, il n'y aurait plus rien à faire qu'à mettre la clé sous la porte de ce château sombre et désert où gisent nos illusions mortes. Ainsi donc, vite fait serait l'inventaire de ces chambres abandonnées, aux lits recouverts de poussière, aux parquets noirs de sang séché. Et sur les carreaux des fenêtres, on pourrait écrire à la craie, tout demain devra disparaître, des choses que l'on a cru vraies. Et dans ce monde à la dérive, pareil aux autres animaux, nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Ainsi donc, il n'y aurait plus rien à voir. Circuler, mais circuler donc, ainsi finirait notre histoire sous le poids des malédictions. Ainsi donc, faudrait faire amende honorable, raser les murs, courber le dos, se résigner au pitoyable, errer de goulag en ghetto. Tout ne serait que simulacre, toute espérance sans lendemain. Rien ne servirait de se battre pour un monde à visage humain. Il faudrait brûler tous les livres, redevenir des animaux, sans avoir d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Sans avoir d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Contre la faim, contre la haine, contre le froid, la cruauté, de la longue quête incertaine pour affirmer sa dignité. Ainsi donc, il nous faudrait tout renier de la bataille surhumaine que depuis l'âge des cavernes, l'homme à lui-même s'est livré. Ne tirez pas sur le pianiste qui joue d'un seul doigt de la main. Vous avez des son chant d'amour et dit tout haut qu'il y a d'autres choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Qu'il y aura d'autres choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Que dans la jungle ou dans le zoo.
Retour à bord de Wagon Livre et devant les micros avec notre invitée Jacqueline Kellen, auteure de Impatience de l'absolu, sous-titré Face au genre inhumain. C'est un ouvrage disponible aux éditions de la Table Ronde. Et puis le tout dernier dont on ne parlera pas ce soir, mais que je mentionne, a pour titre Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux. Et l'ouvrage est disponible chez François Bourin, éditeur. Et puis je salue et remercie encore Francette et Laurent Ekel, les libraires de Vézelay, qui nous accueillent au premier étage de la librairie L'âme enchantée, hein, non loin du musée Zervos, ici à Vézelay, pour l'enregistrement de ce numéro de Wagon Livre. Jacqueline Kellen, nous avons suffisamment parlé de l'humanisme sournois d'aujourd'hui. Le moment est venu de nous attacher un peu au siècle dans lequel nous nous trouvons et que vous qualifiez de siècle thérapeutique. Alors en fait, vous expliquez que nous sommes dans une société de soins qui s'applique aussi bien au corps ou même au mental. Et puis d'ailleurs, vous tapez aussi un petit peu sur la psychologie et la psychiatrie en disant que elles ont leurs limites, hein. Vous utilisez une très jolie périphrase pour parler de Sigmund Freud, vous parlez de lui comme du Manitou autrichien. Alors, Jacqueline Kellen, développez un peu cette idée de siècle thérapeutique.
Eh bien, malgré ce que l'on nous dit à longueur de journée que tout est durable et puis que le progrès va sans cesse grâce à la médecine, grâce aux technologies, grâce à plein d'argent, etc. Eh bien, le monde et l'homme en particulier iront de mieux en mieux. Eh bien, malgré ça, non seulement il y a encore, et c'est heureux, des chagrins d'amour, mais il y a, bien sûr, moins amusant, il y a des maladies et il y a, bien sûr, le trépas. Et devant cet inéluctable, au lieu justement de se poser les questions que s'est posée la conscience humaine dès qu'il y a eu un être humain digne de ce nom, eh bien, on va proposer soit toute la provision de remèdes chimiques pour anesthésiants, tranquillisants, etc. J'ai lu récemment justement le journaliste qui signait l'article était un peu triste parce que la France a, c'était libellé comme ça, la France a perdu la première place du champion des consommateurs de médicaments. Jusqu'ici, la France pouvait s'enorgueillir d'être la première consommatrice de tranquillisants, médicaments, anti-stress, etc. Donc là, je crois qu'on n'est plus qu'à la deuxième place, ce qui est quand même très triste comme nouvelle. Bon. Au lieu, en effet, encore une fois, bien sûr, si on a mal à la tête, c'est important de prendre de l'aspirine, la question n'est pas là, mais la question c'est, est-ce que l'on peut tout soigner? Est-ce que l'on peut guérir de tout? Certes, il y a des remèdes pour le corps, pour les maux physiques, mais il y a des grandes douleurs et les grandes épreuves de la vie contre quoi, que ce soit le coup de marteau, que ce soit le tranquillisant ou la psychanalyse freudienne, jungienne, tout ce qu'on veut, ne seront d'aucun effet. Et ça, on ne veut pas l'admettre. À chaque fois, quand il y a un accident, quand il y a un tremblement de terre ou des choses gravissimes, eh bien, à chaque fois, on envoie une cellule de crise psychologique. Alors, à un moment, ça fait sourire. Pourquoi ? Parce que notre société ne peut pas envisager un étage supérieur à l'être humain. Nous ne sommes qu'un composé psychosomatique, c'est-à-dire nous sommes faits. Bon, c'est un organisme biologique, hein, un corps, ça à peu près, on est tous à peu près d'accord. Et puis, il y a des émotions, des sentiments, des instincts, des pulsions, etc. Donc ça, c'est en gros le psychique. Mais c'est tout. On est réduit à du psychosomatique. Il n'y a pas, apparemment, d'après cette conception de l'être humain qui nous est imposée, il n'y aurait pas des sentiments d'élévation, des sentiments altruistes, le sentiment d'adoration, l'idéalisme, cette dimension créatrice de l'être humain qui est fondamentale. Il n'y a pas cette dimension-là, ou alors cette vision aussi, ces visions célestes, ou cette réceptivité à l'esprit, tout ce qu'on appelle le domaine spirituel. Donc il n'y a pas du tout la reconnaissance de ce troisième étage, je dirais, qui est l'esprit en l'homme, l'aspect spirituel. Donc on ne peut que proposer des thérapies psychologiques qui ne nous empêcheront pas de mourir.
Petite phrase qui vient encore éclairer ce que vous avez développé, Jacqueline Kellen, je vous cite. « Aujourd'hui, avec la propagande médicale et pharmaceutique, c'est comme si l'homme était d'abord malade ou se trouvait dans une menace morbide permanente. Il doit donc acquérir la santé. »
Alors que l'état naturel, et là, beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, enfin des grands, les penseurs, et puis simplement, on peut le constater, l'état naturel de l'être humain est la santé, la bonne santé. Donc s'il y a des accros de santé, en effet, on peut essayer de soulager. Moi, je ne suis pas médecin, mais on connaît quand même le père de la médecine occidentale. Et après, les grands médecins qui ont illustré cette histoire, cet art ou cette science, ou les deux, plutôt cet art, à ce moment-là, comme ils l'imaginaient, eh bien, ils disaient, c'est Ambroise Paré, je crois, j'essaye de soigner, mais seul Dieu guérit. À chaque fois, dès le départ. Donc il n'y a pas cette arrogance. Maintenant, certains disent on va trouver un vaccin contre la mort. Ils disent ça presque sans rire. Donc c'est toujours notre refus d'envisager notre condition, qui est certes limitée, peut-être souffrante, mais aussi qui connaît de belles joies. Notre condition humaine est limitée. Hein, on ne sait pas non plus le jour ni l'heure, mais elle est limitée. Mais notre nature humaine, notre vie, peut être magnifique. C'est ça qui est intéressant.
Si vous venez de nous rejoindre, nous discutons avec Jacqueline Kellen de son avant-dernier ouvrage paru aux éditions de la Table Ronde et qui a pour titre « Impatience de l'absolu » avec le sous-titre « Face au genre inhumain ». Voici venir, Jacqueline Kellen, notre dernière pause musicale et c'est Alain Souchon avec « On avance ». C'était en 1983 et d'ailleurs une des phrases de la chanson c'est « Je la cite, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Et nous aussi, on ne pourra pas faire l'émission dans l'autre sens. On se retrouve dans quelques minutes après cette chanson de Alain Souchon.
Des villas, des mimosas, au fond de la baie de Somme. Des familles sur des transats, le pommier, les pommes. Je regardais la mer qui brille dans l'été parfait. Dans l'eau se baignaient des jeunes filles qui m'attiraient. Les promenades le long des dunes en voiture. Pendant qu'elles regardaient en haut la lune pure. Je mettais dans mes mains leurs doigts et j'étais le roi. Comme dans les chansons d'amour d'autrefois. Tous ces petits moments magiques de notre existence qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance. Tout ce gaspille de nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent. Il y en avait plein de réservoirs au départ. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance, on avance, on avance. Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance, faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense.
À l'instant, on avance, Alain Souchon, dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ce soir avec Jacqueline Kellen, auteure de Impatience de l'absolu, disponible aux éditions de la Table Ronde, et avec un sous-titre important, Face au genre inhumain. Jacqueline Kellen, vous avez entendu les paroles de la chanson On avance, j'en cite un petit extrait. tous ces petits moments magiques de notre existence qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance, tout ce gaspille de nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent, il y en avait plein le réservoir au départ. Ça aussi, on peut y réfléchir un peu. Hein. On revient sur un des aspects de votre réflexion, à savoir ce siècle thérapeutique qui accorde une place exceptionnelle aux soins du corps, de l'esprit. Pourquoi interdit-on, vous soulevez la réflexion dans la fin de votre ouvrage, pourquoi interdit-on plantes et animaux de compagnie dans les hôpitaux et les maisons de retraite, Jacqueline Kellen?
Mais moi, je me suis toujours posé la question. Et ce qui est tellement important, c'est l'aspect de la tendresse, l'aspect affectif. Et au nom d'une certaine science médicale, technicienne, froide, efficace, etc., tout ce qui est de l'ordre de la chaleur humaine, de la tendresse, de la beauté, de la douceur, tout ça est éliminé. Si on va voir un malade, je pense que non seulement, bien sûr, l'embrasser et lui dire des mots doux fera du bien, mais une fleur fera beaucoup plus de bien, en effet, que de javeliser la table de chevet à 6h du matin, comme on le voit faire. Bon. Et les animaux, là, ça fait partie aussi de notre société qui... Comme l'homme, l'être humain, paraît tellement supérieur à tout, eh bien, il faut absolument le distinguer, c'est-à-dire le séparer définitivement de l'animalité. C'est Aristote qui disait que l'homme est un animal raisonnable. Maintenant, nous refusons même cette relation avec l'animalité en nous. Et qu'est-ce que l'animalité en nous? Ce ne sont pas des bas instincts. Moi, j'ai horreur quand on dit « Ah oui, cette personne a eu un comportement bestial ». Non. Moi, je dis toujours « infra-humain ». Parce que les animaux, ils ne violent pas, ils ne torturent pas, etc. Et si le tigre tue, eh ben, c'est pour manger, c'est pas par plaisir. Bon. Et donc, au contraire, dans ce genre inhumain qui est en train de gagner, et il me semble que les animaux, souvent, nous donnent des leçons, mais pas de façon comme certains politiques nous donnent des leçons. Ils nous rappellent qu'il y a la douceur, la patience. Moi, je suis aussi extrêmement touchée quand je vois des animaux malades ou qui savent qu'ils vont mourir, y compris des animaux domestiques, et qui sont résignés. Au sens, c'est la vie, c'est ainsi. Et puis là, attendez, il y a des chats, des chiens qui ont été abandonnés, et quand ils retrouvent un maître, un nouveau maître, eh bien, ils redonnent leur amour. Ils peuvent avoir une période où ils sont peureux ou craintifs, mais ils redonnent leur amour. Mais ce sont des leçons, des leçons de vie. Donc pour moi, en effet, ce seraient les animaux qui seraient les porteurs de l'humanité dans ce siècle de fer que nous sommes en train de vivre.
Et je cite ce que vous écrivez à propos des animaux, Jacqueline Kellen. Les animaux font souvent preuve de qualités exemplaires, patience, courage, humilité, bonté, dont bien des hommes, forts de leur supériorité, se croient dispensés. Il va falloir nous quitter, Jacqueline Kellen. Merci en tout cas d'avoir été devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Je rappelle aussi donc votre tout dernier ouvrage, c'est chez François Bourin, éditeur. Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux, et puis celui dont on a beaucoup parlé ce soir, et à juste titre d'ailleurs, Impatience de l'absolu face au genre inhumain, un livre pour retrouver en soi le fol élan mystique et l'aspiration épique, pour nous rappeler qu'il faut se détacher des biens matériels, se détacher des honneurs terrestres pour vraiment laisser libre cours à sa liberté spirituelle et s'engager dans un ordre amoureux supérieur, un livre pour tenter d'arrêter le laminage de l'intelligence et du cœur. Merci Jacqueline Kellen d'avoir partagé avec les auditeurs de Wagon Livre le fruit de vos réflexions sur notre société. Et puis il y a cette tâche que vous assignez à l'homme, et j'aimerais finir cette émission avec cette trilogie, hominisation, humanisation et divinisation. Merci Jacqueline Kellen et bonsoir.
Merci de tout cœur à vous, merci de votre enthousiasme et puis de votre regard malicieux.
Donc j'espère que mon émission littéraire est une manière d'illustrer cette quête
absolue. Tout à fait, c'est une belle création et c'est une belle relation aussi.
et remerciements appuyés pour Francette et Laurent Ecquet qui nous ont accueillis dans leur librairie rue Saint-Étienne à Vézelay. Bonsoir à tous et à tous et merci de votre attention. Thank you.